VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barr.
Il est 17h à Conakry et 18h à Niamey. Au Burundi, alors que la contestation a été muselée, le pouvoir affirme aujourd'hui que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Des précisions avec Nicolas Pinault.
C'est la présidence burundaise qui relate ce chiffre sur son site internet en relatant une réunion tenue mardi à Gitega entre les gouverneurs de province et Pierre Nkurunziza. À cette occasion, le président burundais a affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Et selon lui, la CENI va continuer à distribuer ses cartes d'électeur afin que ceux qui regagnent le pays puissent se présenter aussi aux élections. Interrogé par VOA Afrique, Prosper Ntaouamié, porte-parole de la CENI, estime que les données pour Bujumbura ne sont pas établies, mais que dans le reste du pays, le taux de retrait des cartes d'électeurs avoisinerait les 100%. Un chiffre surprenant puisqu'actuellement le HCR recense environ 100 000 réfugiés burundais, en majorité des femmes et des enfants. La moitié d'entre eux se trouvent en Tanzanie, puis viennent le Rwanda, la RDC et de plus en plus l'Ouganda. Le pouvoir burundais affirme aussi que la sécurité règne actuellement dans le pays. Sur les 119 communes burundaises, seuls 4 quartiers de Bujumbura posent problème. Nyakabiga, Mutakura, Musaga et Ngagara. Le Burundi sera encore au menu des discussions de l'Union africaine réunies en sommet en Afrique du Sud. On ignore pour le moment si Pierre Nkurunziza se rendra en personne auprès des autres chefs d'État et de gouvernement.
Un journaliste rwandais travaillant pour des médias de son pays a été arrêté et inculpé d'espionnage au Burundi, faute d'accréditation. Les autorités burundaises ont durci le ton contre la presse locale et étrangère depuis le début, en avril dernier, du mouvement de contestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat. Étienne Bessabessa Mivumbu travaillait, selon l'agence rwandaise de presse, pour la radio Ibuza et le site Iguier.com. Une milice armée a investi aujourd'hui le consulat tunisien à Tripoli et a enlevé 10 fonctionnaires, a annoncé le gouvernement tunisien, rapporte l'AFP. Une cellule de crise a été formée, a indiqué le gouvernement tunisien dans un communiqué. Le secteur a été complètement bouclé et des forces de sécurité empêchaient les journalistes de s'approcher des lieux. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté nationale tunisienne. Et la diplomatie tunisienne a une nouvelle fois appelé ses ressortissants en Libye à la prudence, à quitter le pays si possible et à ne pas s'y rendre, sauf en cas de nécessité absolue. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dimanche et lundi prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. Le thème officiel de cette année est le développement et l'émancipation des femmes. Mais la réunion devrait être dominée par des sujets d'actualité brûlante comme la crise au Burundi, la question des migrants qui risquent leur vie par milliers pour regagner l'Europe, la guerre au Soudan du Sud et les attaques des mouvements islamistes qui menacent plusieurs États. Les États-Unis seront présentée au sommet par Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, entre autres personnalités américaines. Au Mali, le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta a été approuvé à une large majorité ce matin à Bamako. Monsieur Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir de la crise et a demandé l'implication de tous et à tous les niveaux pour accomplir cet objectif. 116 députés ont voté pour et 16 contre. Ces derniers sont tous des membres de l'opposition. En Afrique du Sud, un jeune ayant bénéficié de la première greffe réussie d'un pénis sera papa d'ici la fin de l'année, soit moins d'un an après l'opération. Son chirurgien qui a donné l'information l'avait opéré à la suite d'une circoncision traditionnelle manquée. Jean-Roger Bion.
C'est une nouvelle prouesse de la science. L'opération du jeune Sud-Africain avait duré 9 heures. Le pénis greffé avait été prélevé sur un donneur décédé après accord de sa famille. Le miracle s'est produit. Il m'a informé que sa partenaire était enceinte d'environ 4 mois, a déclaré André Van Der Merwe, l'urologue qui avait conduit l'opération à l'hôpital Tygerberg au Cap le 11 décembre. Les deux jeunes gens et futurs parents ont la vingtaine. Les accidents durant les cérémonies initiatiques organisées sans témoins et en secret sont assez fréquents en Afrique du Sud, notamment parce que certains individus peu scrupuleux s'improvisent maîtres de circoncision avec la complicité de chefs coutumiers peu regardant. Entre 2008 et 2013, on estime à 486 le nombre de jeunes gens décédés à la suite de ces circoncisions rituelles, le plus souvent à cause d'une infection ou d'une gangrène.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Interpol a annoncé ce vendredi avoir suspendu le partenariat avec les instances gouvernantes de la FIFA, alors que le Paraguay prenait également des mesures suite au scandale de corruption qui frappe le football international. Des précisions avec Camille Grosdidier.
Interpol a annoncé la suspension de son accord avec la FIFA suite aux enquêtes pour corruption engagées contre l'organe directeur du football, précise un communiqué de l'organisme de coopération policière qui est basé à Lyon. Dans le cadre d'un accord signé en mai 2011, Interpol avait reçu 20 millions d'euros de la FIFA pour mettre en place un programme intitulé « Intégrité dans le sport » d'une durée de 10 ans, le but étant d'empêcher la manipulation d'événements sportifs par des mafias. La FIFA est au cœur d'un scandale de corruption présumé suite à l'ouverture d'une enquête par le département de la justice américain. À peine réélu pour un cinquième mandat, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a démissionné le 2 juin. Entre-temps, le Sénat paraguayen a supprimé l'immunité dont bénéficiait depuis 1997 le siège de la Confédération sud-américaine de football à Asunción. L'un de ses anciens dirigeants, Nicolas Leoz, a été inculpé par la justice américaine dans le cadre du scandale qui touche la FIFA.
Ici aux États-Unis, un juge a estimé que deux policiers impliqués dans la mort d'un garçon noir de 12 ans abattu en novembre dernier à Cleveland alors qu'il manipulait un pistolet factice devraient être traduits en justice. L'avis de ce juge du tribunal municipal de Cleveland est consultatif, comme le rappelle la chaîne de télévision locale ABC News. C'est au procureur qu'il reviendra de décider d'engager ou non des poursuites et de déterminer les chefs d'accusation. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Le décès de Tamir Rice avait remué l'opinion américaine à l'automne dernier en plein débat sur les violences policières à l'encontre de minorités et surtout des Noirs aux États-Unis. Le garçon a été abattu le 22 novembre, quelques secondes après l'arrivée dans un square de deux policiers alertés en un appel leur signifiant qu'un enfant jouait avec un pistolet. La police a affirmé que les deux agents avaient été informés lors du signalement que l'arme, un jouet, était probablement factice. Le juge Ronald Adrin a recommandé que Timothy Lowman, l'officier de police auteur de coups de feu, soit poursuivi pour meurtre, homicide involontaire et manquement à son devoir de policier. Ces deux derniers chefs d'accusation pourraient aussi être retenus contre son collègue Frank Garmbach, qui conduisait la voiture de police, a estimé le juge selon ABC News. Il a été amené à se prononcer à la faveur d'une loi permettant aux habitants de la ville de court-circuiter le procureur pour réclamer directement un mandat d'arrêt auprès d'un juge. Le bureau du shérif du comté de Cuyahoga, chargé de l'enquête, a rendu la semaine dernière des conclusions au procureur. Mais la procédure peut prendre encore plusieurs semaines, voire des mois, pour que ce dernier décide ou non d'engager des poursuites.
Aux États-Unis, un adolescent américain a admis hier devant un tribunal qu'il a essayé d'aider le groupe État islamique à recruter des partisans et à lever des fonds. Ali Soukri Amin, 17 ans, a plaidé coupable des accusations de complot pour fournir un soutien matériel à un groupe terroriste étranger, une infraction passible d'une peine de 15 ans de détention, selon le procureur général adjoint américain pour la sécurité nationale, John Carlin. L'adolescent a utilisé les médias sociaux pour porter assistance aux djihadistes. Il a ajouté que les extrémistes islamistes, aussi éloignés soient-ils, tendent la main aux jeunes pour essayer de les radicaliser, les recruter et les inciter à la violence. Maître Joseph Flood, l'avocat d'Ali Soukri Amin, dit que son client de 17 ans regrette ce qu'il a fait et coopère maintenant avec les autorités américaines. Et l'UNESCO a condamné aujourd'hui la mort de 5 personnes et la destruction de plusieurs édifices de la vieille ville de Sanaa au Yémen, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, dans un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Voilà pour le journal dans 20 minutes, Le Monde aujourd'hui, avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Sur VOA Afrique.